Bon, donc je vais démarrer cette quatrième séance. Bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais vous expliquer un petit peu le calendrier de la suite des événements. La fois prochaine, je ferai en fait une séance avec seulement du cours, donc 2 heures de cours, il n'y aura pas de séminaire, parce que je voudrais avoir le temps de passer bien en revue, bien en profondeur, l'analyse des coefficients de transport, des formules de base qui permettent de calculer les coefficients de transport dans une approche à la Kubo ou Kubo-Boltzmann, qu'on va commencer un petit peu aujourd'hui. Et puis, on verra des applications assez détaillées aux semi-conducteurs. Donc, je dirais des applications aux matériaux classiques comme bismuth telluride par exemple, de la thermoélectricité. Voilà, donc ça va me demander à peu près 2 heures, donc je préfère faire un cycle de 2 heures de cours. Donc ça va terminer essentiellement le cycle de cours, puisqu'il n'y a que 6 heures de cours cette année, et j'avais laissé un petit peu dans le flou la suite des séances de mai pour les séminaires. Alors finalement, on aura 2 séances de séminaire, une le 15 mai, une le 22 mai, et ces 2 séances, avec chaque fois un orateur, et peut-être 2 le 22, on va voir, ces 2 séances de séminaire seront focalisées sur les scuterodytes, hein, qui sont, comme vous le savez, des matériaux, je dirais, vraiment prometteurs pour la thermoélectricité, en particulier à cause de leurs propriétés de conductivité thermique très basse. Et il soulève aussi des questions assez fondamentales sur les raisons de cette conductivité thermique très basse. Donc le 15 mai, on aura un exposé de revue par le professeur Stira d'UR de l'Université du Michigan sur les scuterodytes. Et puis le 22 mai, on aura un séminaire sur la diffusion de neutrons dans ces scuterodytes et la relevance, la pertinence de l'idée de cristal d'électrons vert de phonon par Marek Koza, qui est donc un expérimentateur qui travaille à Grenoble et qui fait de la diffusion de neutrons sur ces systèmes. Voilà, donc ça c'est un petit peu le menu de la fin, et puis je vous rappelle qu'à l'automne prochain, on aura une continuation de ce cycle plutôt sur l'aspect thermoélectricité des petits systèmes, des systèmes mésoscopiques en particulier. Alors, la séance d'aujourd'hui, donc quatrième séance, elle sera consacrée à finir un certain nombre de choses que j'avais laissées un petit peu de côté dans les séances précédentes, d'une part. Donc, je vais reprendre un petit peu les questions de pouvoir thermoélectrique et d'entropie qu'on avait beaucoup abordées la dernière fois à travers les formules de Heikes et de Kelvin-Chastry. Et puis, j'avais aussi pas fini la thermodynamique des thermoélectriques. Donc, il y avait un certain nombre de considérations de thermodynamique que je voudrais finir d'appliquer aux thermoélectriques. Et puis, si j'ai le temps, je pense que j'aurai le temps, avant de finir la séance, je vais vous présenter le formalisme de Kubo général pour le calcul des coefficients de Hunsager. Donc, ça sera une partie un peu plus formelle. Et puis, donc, la fois prochaine, on l'appliquera plus concrètement aux différents mécanismes de diffusion responsables du temps de vie fini des électrons dans les thermoélectriques avec des applications aux semi-conducteurs. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un séminaire qui sera donné par Franck Gascoin, qui est ici. Donc, Franck Gascoin est au CRISMAT de Caen. Je le présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Son séminaire, c'est un chimiste du solide, hein, son séminaire va être très complémentaire à celui de la dernière fois, qui nous aura présenté un panorama assez large sur la thermoélectricité des oxydes de métaux de transition. Cette fois, Franck va nous parler à la fois de matériaux classiques, je dirais classiques parce que c'est ceux qu'on trouve dans les dispositifs actuellement, hein, donc comme les tellures en particulier. Ça prépare bien le cours de la fois prochaine. Et puis, il va nous parler également, bien sûr, des recherches qu'il mène actuellement pour des nouveaux thermoélectriques, et en particulier des sulfures et sélénures, je pense. Donc, voilà le menu de la séance d'aujourd'hui. Bien, alors je voudrais donc vous revenir un petit peu sur les considérations de pouvoir thermoélectrique et d'entropie, qui est une continuation adiabatique du cours précédent. Alors, mes conseillers en communication m'ont suggéré que le cours précédent était un peu technique et je n'avais pas assez donné le punchline. Donc, je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus en vous donnant un petit peu les points importants sur ces considérations entropiques liées aux oxydes en particulier. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, on avait établi, avec des arguments un peu heuristiques, deux formules approchées pour le pouvoir thermoélectrique. J'insiste sur le fait que ce sont des approximations, par des considérations qui étaient essentiellement des considérations de limite haute température. L'une de ces formules, c'est la formule dite de Hikers, ou de Hikers généralisée, qui relie le pouvoir thermoélectrique alpha à la pente du potentiel chimique à haute température, essentiellement. Et l'autre, c'est une expression qui a été en fait introduite par Chastry, qu'il a appelé l'expression de Kelvin, mais véritablement c'est un travail relativement récent de Chastry qui introduit cette expression, qui relie le pouvoir thermoélectrique, encore une fois de manière approchée, à la dérivée du potentiel chimique par rapport à la température. Et vous voyez que ces deux expressions permettent de relier le pouvoir thermoélectrique à des quantités purement thermodynamiques. Alors, ce n'est pas exact, puisque évidemment le pouvoir thermoélectrique, c'est quand même une quantité qui nécessite un vrai calcul de transport, bien entendu, mais c'est une approximation qui peut fonctionner dans certains régimes. Et vous voyez que comme ça, on peut en tout cas obtenir une intuition physique sur la manière dont le pouvoir thermoélectrique va dépendre des différents paramètres dans le système, parce que ces deux formules relient le pouvoir thermoélectrique à des dérivés de l'entropie par rapport à la densité électronique. Voilà. Bon, alors, la dernière fois, on avait vu des estimations de ces formules de Hikers et de Kelvin-Chastry dans le contexte d'orbitales très localisées, donc probablement pertinent pour des oxydes de métaux de transition, par exemple, en estimant les contributions entropiques des différents termes. Et j'avais peut-être pas effectivement assez insisté sur pourquoi ces matériaux peuvent présenter un intérêt dans l'optique de cette connexion en particulier entre pouvoir thermoélectrique et entropie. Alors, évidemment, la raison de base, c'est que si vous avez un ion de métal de transition dans une limite suffisamment localisée, eh bien, potentiellement, vous avez beaucoup de degrés de liberté dans le problème. Vous avez des degrés de liberté de spin et vous avez des degrés de liberté orbital. Potentiellement, vous avez 5 degrés de liberté orbitaux et 2 degrés de liberté de spin. Donc, vous avez un très grand nombre de degrés de liberté. Et si vous arrivez à débloquer un certain nombre de ces degrés de liberté dans une certaine gamme de température, évidemment, ça, c'est une source d'entropie. Et donc, on peut imaginer que ça contribue à des pouvoirs thermoélectriques élevés. Alors, évidemment, dans le régime, donc j'avais exploré ça en détail la dernière fois, dans le régime basse température, où la température est petite devant une échelle de cohérence métallique, eh bien, ces degrés de liberté sont bloqués par le principe de Pauli. On est dans un régime métallique, les pouvoirs thermoélectriques sont très faibles. En revanche, quand on commence à élever la température, on peut espérer libérer un certain nombre de ces degrés de liberté. Alors, est-ce qu'on libère tous les degrés de liberté accessibles ou seulement une partie? Ça, c'est une question qui va dépendre du matériau. Mais on peut espérer pouvoir bénéficier de cette source d'entropie pour avoir des pouvoirs thermoélectriques élevés. Évidemment, dans cette optique, on veut que cette échelle de cohérence métallique soit la plus petite possible. Et en ce sens, la frustration géométrique du système, donc avoir des réseaux cristallins frustrés, comme le réseau triangulaire des cobaltates, eh bien, peut aider à libérer cette source d'entropie. Donc voilà un petit peu, je dirais, le point clé d'une part de la recherche de matériaux oxydes, où on a donc des orbitales assez localisées pour la thermoélectricité, peut-être plus généralement d'utilisation des métaux de transition. Bon, alors je vous rappelle rapidement les formules de Hikers. Donc on avait vu qu'il y avait en fait deux limites importantes, une limite qui n'a qu'un intérêt un peu académique, qui est la limite de très haute température, où il faudrait compter toute l'entropie accessible. Et j'avais insisté sur le fait que cette formule-là, eh bien, elle révèle une divergence du pouvoir thermoélectrique seulement pour une bande complètement pleine ou complètement vide. Hein, donc c'est une description, je dirais, de semi-conducteur assez standard. En revanche, quand on va à basse température, eh bien, chaque remplissage commensurable, et quand les interactions sont grandes, peut correspondre à un isolant de Mott. Et à ce moment-là, on trouve une divergence du pouvoir thermoélectrique au voisinage de chacun de ces remplissages commensurables. Il y a donc essentiellement deux cas. Il y a le régime de valence mixte, hein, où le remplissage de la couche est entre deux remplissages commensurables. Et à ce moment-là, les formules de Hikes est donnée par le log du rapport des dégénérescences des états fondamentaux à n-1 et n plus 1 nombre d'électrons. Et puis, il y a le régime... alors, attendez, j'ai mélangé les deux choses, là. Le régime de valence entière, c'est celui-là. Le régime de valence mixte, c'est évidemment celui-là. Il y a le régime donc, de valence entière, où c'est le log de ces deux dégénérescences. Et puis, le régime de valence intermédiaire, où j'ai deux termes. Un terme qui est encore un rapport de dégénérescence, mais cette fois entre les deux, toujours entre les deux états de charge proches, donc n et n plus 1, et puis le terme de Hikes historique, qui est essentiellement log de x sur 1 moins x, où x est le dopage de mon système. Donc si vous représentez ça en fonction du remplissage de la couche, donc cette courbe a été obtenue pour un atome dans avec une levée de dégénérescence du haut champ cristallin entre un triplet T2G et un doublet EG, hein. Et donc, vous avez ici le remplissage de la couche de 3 à 6, c'est complètement symétrique pour les remplissages entre 1 et 3. Eh bien, vous voyez, regardez seulement la courbe bleue de plus basse température ici, vous avez ces divergences en log de x sur 1 moins x au voisinage de chacun des remplissages correspondant à une couche pleine, enfin une couche ayant un nombre entier d'électrons. Et si vous voulez apprécier le point que j'essayais de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que le fait d'avoir une dégénérescence supplémentaire du haut spin aux orbitales peut vous faire gagner, eh bien, vous regardez exactement au milieu de deux remplissages commensurables, ici au remplissage x égale 1,5. Au remplissage x égale 1,5, le terme de Hikes log de x sur 1 moins x est nul, d'accord ? Et vous voyez que si je n'avais pas de degré de liberté autre que le simple dopage d'un semi-conducteur sans dégénérescence dans l'état fondamental de l'isolant correspondant, eh bien, exactement à x égale 1,5, ces courbes passeraient par 0, d'accord ? Et donc, vous voyez, ce que vous gagnez ici, c'est cette quantité-là. Hein, donc, vous voyez que ça, c'est en unité de Kb sur E, donc ici, c'est de l'ordre d'un peu plus de Kb sur E, et cette quantité peut devenir relativement grande, en particulier quand on s'approche du régime où la couche est presque pleine. Donc ça, c'est le régime pertinent pour les cobaltates, mais on a vu évidemment que ces descriptions très localisées sont sujettes à caution pour l'interprétation du pouvoir thermoélectrique des cobaltates, qui sont quand même des systèmes assez métalliques. Bon, donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner un feeling en quoi les formules de Hikes illustrent le fait que ce qui est intéressant dans ces systèmes à orbitales localisées, c'est de pouvoir gagner en entropie orbitale et entropie de spin. C'est ça le point de base. Alors, on avait vu la dernière fois que pour les oxydes les plus isolants, eh bien, on a des cas où les formules de Hikes généralisées, hein, en tenant compte de ces entropies de spin et orbitales, marchent très bien. Hein. Donc ça, c'était le cas de ces oxydes de chrome, où on avait une très bonne description de pouvoir thermoélectrique en fonction de la concentration de dopants par ces formules de Hikes généralisées. La formule rouge, ça serait le seul log de x sur 1 moins x, et puis la courbe bleue, c'est avec ce terme supplémentaire, hein, qui est log de dn sur dn moins 1, que j'ai montré tout à l'heure. Bon, alors, je voudrais finir cette connexion, si vous voulez, entre le pouvoir thermoélectrique et les considérations d'entropie accessible, en rappelant quelque chose qui n'a pas forcément un intérêt direct pour la thermoélectricité en tant qu'application énergétique, mais qui a joué quand même un rôle important dans la physique des cuprates, qui est ces relations ou ces observations de Hobert, Tally, Cooper et Talon sur les cuprates, qui illustrent bien l'usage qu'on peut faire, alors d'un point de vue plus fondamental, de ces connexions entre pouvoir thermoélectrique et entropie. Donc, quelques mots sur les cuprates et ces relations, cette observation de Hobert, Tally, Cooper, Talon. Alors, pour ceux qui connaissent la physique des cuprates ou qui ont suivi le cours d'il y a 2 ans, Vous vous souvenez que dans les cuprates supraconducteurs, il y a un régime dit régime sous-dopé, quand le dopage est inférieur au dopage optimal, où on a l'ouverture d'un pseudo-gap dans le spectre d'excitation, et ce pseudo-gap correspond à une perte d'état excité disponible. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les expériences, hein, l'ARMN, le night shift par exemple, l'ARPES bien sûr, mais également en chaleur spécifique, puisqu'il y a une perte d'état excité disponible, il y a une perte de chaleur spécifique, une perte d'entropie donc. Alors ça, vous le voyez ici, ces expériences sont des expériences qui mesurent la chaleur spécifique, ce qui est représenté ici, c'est le coefficient C sur T du terme linéaire dans la chaleur spécifique en fonction de la température. Et ce que vous voyez, c'est que pour les composés les plus dopés, on a un C sur T, donc ça c'est la transition supra, hein, bien évidemment. Ici, vous avez un comportement qui est bien assez plat en fonction de la température, donc ça c'est le C sur T, le C sur T égale constante d'un système d'un gaz d'électrons habituel. Mais ce que vous observez, c'est que pour les composés sous-dopés, ceux qui sont à des dopages inférieurs au dopage optimal, eh bien, il y a une chute, comme vous le voyez ici, de ce coefficient C sur T, quand, en dessous d'une certaine température qui est relativement élevée, qui est par là, bien au-dessus de la valeur de la température critique supraconductrice. Hein, donc il y a une perte de chaleur spécifique, donc également une perte d'entropie. Ces expériences sont très difficiles. En fait, le groupe de Loram, Cooper à Cambridge sont pratiquement les seuls à avoir vraiment publié des données sur cette question. Il y a quelques autres groupes, mais ce sont des expériences très délicates, en particulier parce qu'évidemment la chaleur spécifique électronique est une contribution faible à la chaleur spécifique totale et il faut soustraire la chaleur spécifique de phonons. Hein, donc c'est une entreprise délicate. Mais ces courbes sont considérées comme, en tout cas, assez fiables dans la communauté des cuprates. Je pense pour des bonnes raisons. Elles ont en fait été. Il y a des tests un peu indépendants de la validité de ces courbes. On peut, à partir de ces mesures de chaleur spécifique, reconstituer l'entropie. Et donc, vous voyez l'entropie cette fois. Ici, S, c'est l'entropie, hein, pas le pouvoir thermoélectrique. Donc, vous avez l'entropie en fonction de la température. Elle est linéaire en température. Et puis, quand on atteint ce pseudo-gap, il y a une perte, un creux d'entropie. Ça veut dire que la chaleur spécifique n'est pas vraiment linéaire en température dans le régime pseudo-gap. Alors, on peut représenter, à une température fixée, qui ici, je pense, il y a différentes températures représentées, dont la température ambiante ici. On peut représenter l'entropie en fonction du nombre de trous dans les plans cuivre-oxygène. Et vous voyez que cette entropie, en fonction du nombre de trous, elle a une sorte de maximum, hein, assez clairement, au voisinage du dopage optimal. Et ça correspond au fait que du côté gauche, il y a une perte d'entropie du pseudo-gap, et du côté droit, le coefficient gamma de la chaleur spécifique diminue parce que le système devient un métal de meilleur en meilleur avec une masse effective de plus en plus faible, donc le coefficient gamma diminue. Donc il y a un maximum de l'entropie, hein, et si vous vous laissez guider par ces considérations approchées entre le pouvoir thermoélectrique et l'entropie, vous pourriez en déduire, puisque là on a directement une estimation de l'entropie en fonction de la densité, que le pouvoir thermoélectrique doit être grand par là, je ne sais pas, en fait on va voir qu'il est petit, c'est ce à quoi on s'attend pour un métal, mais surtout s'annuler au voisinage du dopage optimal. Et alors effectivement c'est ça qui se passe. Vous voyez ici le pouvoir thermoélectrique, alors cette fois dans cette courbe-là, S, c'est le pouvoir thermoélectrique. Je suis désolé pour ces problèmes de notation dans les différents articles. Et donc ce que vous voyez ici, c'est le pouvoir thermoélectrique des cuprates sous-dopés. Donc là, il y a toute une série de familles de cuprates qui sont comparées, puisque dans le régime sous-dopé, c'est commode de faire des expériences avec Ibacuo. Dans le régime surdopé, on ne peut pas surdoper Ibacuo, donc il faut utiliser LSCO ou d'autres matériaux. L'éthalium, par exemple. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le pouvoir thermoélectrique dans le régime sous-dopé. Hein, et donc, vous voyez qu'effectivement, ce pouvoir thermoélectrique est assez grand dans le régime sous-dopé. Donc, c'est effectivement des métaux qui ne sont pas des métaux standards. Et puis, le pouvoir thermoélectrique dans le régime surdopé, lui, il est petit. Observez que les deux échelles pour la partie sous-dopée et surdopée ne sont pas la même. Ici, c'est une échelle log, ici, c'est une échelle lin. Hein. Donc effectivement, dans le régime surdopé, on a des bons métaux, on trouve un pouvoir thermoélectrique très petit, c'est ce à quoi on s'attend. Mais vous voyez qu'effectivement, le pouvoir thermoélectrique s'annule essentiellement au dopage optimal. Alors ça, c'est un article beaucoup plus récent d'un groupe japonais que j'ai trouvé dans la littérature, qui a compilé un nombre tout à fait impressionnant de données sur les cuprates et qui représente le pouvoir thermoélectrique à l'ambiante en fonction du nombre de trous dans les plans cuivre-oxygène et observer le fait que ici j'ai une échelle logarithmique pour la partie sous-dopée, ici une échelle linéaire pour la partie surdopée. Alors c'est peut-être une manière de représenter les choses qui est un petit peu misleading, parce que la vraie courbe, elle est comme ça, c'est quelque chose qui est très qui peut être assez grand ici, même franchement grand dans le régime de bas dopage, et puis qui s'écrase complètement presque à zéro dans le régime de surdopage. Mais quand on représente les choses de cette manière, au moins ces courbes montrent très clairement qu'il y a essentiellement une annulation du pouvoir thermoélectrique à un dopage qui est peut-être légèrement à droite du dopage optimal. Donc vous voyez que ces considérations, disons j'ai inséré ça ici, bien que ça ne soit pas peut-être d'intérêt direct pour les applications énergétiques de la thermoélectricité, j'ai inséré ça ici pour vous montrer qu'on peut apprendre des choses, ou au moins progresser dans notre appréhension phénoménologique d'un matériau en regardant conjointement des mesures de chaleur spécifiques et des mesures de pouvoir thermoélectrique. Bon. Donc voilà qui clôt un petit peu les choses que je voulais finir sur les rapports entre pouvoir thermoélectrique et entropie. Et la suite du cours d'aujourd'hui consiste à finir les choses que je voulais vous raconter au cours 2 sur la thermodynamique de la thermoélectricité et plus généralement la thermodynamique de la conversion d'énergie. Donc je vais d'abord faire quelques petits rappels pour resituer un petit peu les choses qu'on avait déjà établies. Donc, j'avais fait au cours 2, de manière assez détaillée, au tableau en grande partie, j'avais établi des choses sur l'efficacité d'un moteur thermique. Et je vous avais montré que, j'avais rappelé le vieux résultat de Carnot, disons, qui est que si j'ai un moteur thermique complètement réversible, eh bien, il va fonctionner avec une efficacité qui est définie comme le rapport de la puissance délivrée ou du travail délivré à la chaleur injectée par la source chaude. Eh bien, cette quantité, donc l'efficacité de ce moteur, pour un moteur complètement réversible, serait donnée par cette formule très belle qui ne contient comme paramètre que la température de la source froide, TC, et la température de la source chaude, TH. Donc c'est l'efficacité maximale théorique qu'on peut obtenir en l'absence de tout processus dissipatif, puisqu'on a un système complètement réversible. Et vous voyez qu'évidemment, le problème, c'est qu'un tel moteur étant complètement réversible, eh bien c'est un moteur qui demande un temps infiniment long pour fonctionner, donc il délivre une puissance nulle. Donc l'efficacité de Carnot, c'est une efficacité maximale théorique, mais correspondant à un moteur délivrant une puissance nulle. Donc j'avais présenté généralisation de ce genre de considération sur l'efficacité des machines thermiques, qui est due à Chambadal et Novikov, et puis redécouverte par Curson et Alborn, qui va au-delà de ce moteur complètement réversible, en couplant un tel moteur à deux sources, une source chaude et une source froide, mais par l'intermédiaire d'échangeurs dissipatifs ayant une conductivité thermique finie. Et on avait montré dans ce cas-là que l'efficacité à puissance maximale, donc cette fois, on peut avoir c'est un moteur qui est réversible dans son fonctionnement interne, ce qu'on appelle endoréversible, mais l'ensemble du dispositif n'est pas réversible puisqu'il y a des processus dissipatifs dans les contacts. Eh bien, dans ce cas-là, on avait montré que l'efficacité à puissance maximale, de manière remarquable, ne dépend de nouveau que de la température de la source chaude et de la source froide, et est donnée non pas par 1 moins TC sur TH, mais par 1 moins racine de TC sur TH. Et remarquez que quand on regarde une limite où le gradient thermique est infinitésimal, ce que je vais faire dans la suite du cours au tableau aujourd'hui, eh bien, ce 1 moins racine de TC sur TH, ça devient tout simplement l'efficacité de Carnot sur 2. Hein, si vous développez TH égale TC moins delta T, vous développez à delta T petit, vous trouvez que ça, c'est l'efficacité de Carnot sur 2. Donc, la chose mnémotechnique, c'est que à puissance maximale, un modeur quantoréversible a une efficacité qui est l'efficacité de Carnot sur 2. Voilà. De manière assez curieuse, cette efficacité de Chambadal, Novikov, Curson, Alborn, c'est quelque chose qui a été formalisé seulement vers le milieu des années 50, quand les gens se sont préoccupés de l'efficacité des centrales nucléaires, essentiellement. Bon, alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est appliquer ou développer ces considérations-là pour un dispositif thermoélectrique. Donc, un dispositif thermoélectrique, c'est évidemment un dispositif qui n'est pas endoréversible, hein, puisque vous avez des processus dissipatifs, et la force de ces processus dissipatifs, eh bien, elle s'exprime par le fait que la figure de Mérite sans dimension, qu'on avait introduite plusieurs fois dans les cours précédents, n'est pas infinie. La limite d'une figure de Mérite sans dimension infinie correspondrait à une limite de Carnot, hein, où tous les processus dissipatifs sont zéro, et essentiellement, vous voyez que l'efficacité de la conversion d'énergie, c'est quelque chose, ça on l'avait vu au cours 2, qui va être régi par cette constante de couplage sans dimension, qui est le L1,2 de Hornsager, hein, qui couple le transport thermique et le transport d'entropie, divisé par la moyenne géométrique des deux coefficients diagonaux. Et cette constante de couplage est directement reliée à la figure de Mérite sans dimension par cette relation ici. En fait, en thermoélectricité, on utilise la figure de Mérite sans dimension, qui est quelque chose qui varie entre 0 et, disons, théoriquement, l'infini. Disons, on sait bien qu'elle est d'ordre un peu plus que 1 dans les matériaux d'intérêt actuel. Mais cette constante de couplage, elle a le bon goût de varier entre, son carré de varier entre 0 et 1. Hein, donc, c'est quelque chose qui est assez commode à manier. Du point de vue théorique, c'est un petit peu plus... un petit peu plus rationnel de travailler avec cette constante de couplage. Alors, la dernière fois, ce qu'on avait fait au cours 2, c'est qu'on avait établi une expression pour la production, le taux de production irréversible d'entropie. Donc j'avais démontré cette expression-là, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, hein, je considère ça comme acquis du cours 2. On avait établi une expression qui est ici le taux de production irréversible de chaleur, puisque j'ai multiplié par T, hein, et vous voyez que si l'entropie est conservée, eh bien, le membre de droite ici devrait être 0, puisque ds sur dt plus divergence du courant d'entropie égale 0 exprime la conservation de l'entropie, donc ça serait vrai pour un processus purement réversible où l'entropie est conservée. Donc le membre de droite, hein, qui exprime potentiellement non nul, c'est bien le taux de production de chaleur dû au processus dissipatif. Le taux de production irréversible de chaleur ou d'entropie si je divise par T. Voilà. Alors vous voyez que ça c'est très très général, c'est quelque chose qui s'exprime comme le produit scalaire des courants par ce qu'on appelle en thermodynamique des processus irréversibles les forces conjuguées. Donc il y a cette relation très générale qui exprime le taux de production irréversible de chaleur dQ dt irréversible, sous la forme d'une somme sur les différentes quantités que je considère, donc les différents courants que je considère, ici le courant de particules et le courant d'entropie, mais s'il y avait d'autres processus, par exemple dans le cas d'une réaction chimique, il y aurait d'autres taux d'espèces chimiques, eh bien, on devrait les faire figurer dans le membre de droite, c'est le produit des courants par les forces conjuguées, on appelle en thermodynamique des processus irréversibles X. Et vous voyez qu'ici, la force conjuguée correspondant au courant de particules, c'est moins gradient de mu sur T. Et la force conjuguée correspondant au courant d'entropie, ou au courant de chaleur, disons, le courant d'entropie, disons, eh bien, c'est moins gradient T sur T. Si vous utilisez de plus dans cette équation les équations de la réponse linéaire, donc qui relient les courants à ces forces par l'intermédiaire de la matrice des coefficients de Hunsager, vous trouvez cette expression-là, hein, et cette expression-là doit être définie positive, puisque le taux de production d'entropie doit être positif ou nul, ça c'est le second principe, et ceci implique, on l'avait vu, qu'un certain nombre de contraintes sur le signe des coefficients de Hunsager, essentiellement, ça contraint L1 et L2 à être positifs, et le déterminant de la matrice L à être positif dans le cas d'une matrice 2-2, comme c'est le cas ici. Voilà, et en calculant le membre de droite, donc cette fois en utilisant les équations de la réponse linéaire, on avait établi effectivement que l'expression qui est là, eh bien, elle était bien donnée simplement par la somme des processus irréversibles, donc la chaleur dissipée par effet Joule et la chaleur dissipée par le transport de Fourier, le transport thermique, et vous voyez que ces deux termes sont proportionnels au carré des courants, donc ce sont bien des processus irréversibles, on ne peut pas changer leur signe en renversant le sens des courants. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est attirer votre attention sur le membre de droite. Vous voyez que le membre de droite de cette expression, il va être nul s'il n'y a pas de processus irréversible, ceci doit correspondre à l'efficacité de Carnot. Donc il est tout à fait naturel de définir une efficacité. Donc là, évidemment, par rapport au calcul précédent, j'avais considéré un gradient thermique fini. Hein, il y avait une source chaude, une source froide à des températures différentes. Ici, le gradient thermique est infinitésimal. Tout ça, ce sont des raisonnements locaux. Et donc, il est tout à fait naturel de définir une efficacité relative par rapport à l'efficacité de Carnot, qui va valoir 1 dans le cas de l'efficacité de Carnot, et qui va être quelque chose comme ça, eta R égale Jn gradient mu, sur JS gradient T, avec un signe moins, de manière que quand cette expression soit égale exactement à 1, eh bien, le membre de droite soit 0, et donc dans cette manière de définir l'efficacité relative, eh bien, 1 correspond à l'efficacité de Carnot. Alors vous voyez que ça, si je le réexprime en termes du courant électrique, hein, on avait vu la relation entre le gradient du potentiel du potentiel électrochimique et le champ électrique, ça c'est également la densité de courant électrique fois le champ électrique divisé par JS gradient T. Donc c'est bien quelque chose qui est le rapport de la puissance électromagnétique délivrée par mon système, J scalaire E, divisé par essentiellement la puissance correspondant à la chaleur injectée dans mon moteur. Hein, donc c'est une définition très raisonnable de l'efficacité du système. Donc je vais prendre cette définition de l'efficacité et puis on va la calculer en utilisant les équations de la réponse linéaire et on va regarder comment on peut optimiser cette efficacité relative. Voilà, donc ça c'est donc l'efficacité relative, relative à Carnot, hein. Et donc égal à 1 dans le cas d'un processus réversible. Alors, utilisant les équations de la réponse linéaire pour exprimer cette expression, donc je vais considérer, disons pour simplifier, un système où je peux remplacer tous ces produits scalaires juste par le produit de J et de E, disons une géométrie unidimensionnelle, un cas très simple. Donc, j'aurai JE, JS, donc le courant de particules. Alors, je préfère travailler plutôt qu'avec le courant de particules. Là, pour ces calculs-là, comme on a une intuition directe de cette quantité comme étant la puissance des porteurs de charge, eh bien, je préfère travailler avec JE qu'avec JN dans la suite. Alors, ici, donc, vous voyez que je peux relier ces deux. Et de même, je préfère travailler avec, d'une part, le champ électrique et, d'autre part, moins le gradient thermique plutôt qu'avec moins gradient mu et moins gradient T, hein, pour que ce soit un petit peu plus physique. Donc, je peux la matrice des coefficients de transport, on l'avait établie au cours 1 et au cours 2. on sait qu'ici, elle contient la conductivité. Je vais essayer d'écrire ailleurs que sur la rupture de pente du tableau, parce que sinon, vous n'allez pas avoir grand-chose. Voilà. Donc ici, il y a une matrice de 2. Ici, j'ai donc E et moins gradient T. Et puis ici, les éléments de matrice, c'est la conductivité, le produit du pouvoir thermoélectrique et de la conductivité. Ici, la même chose, alpha sigma. Et puis ici, j'ai la conductivité thermique divisée par la température fois 1 plus Z bar, où Z bar, c'est ZT, la figure de Mérite sans dimension. Alors, pourquoi est-ce que ici c'est kappa sur T 1 plus Z bar? Ça, c'est parce que vous vous souvenez, le coefficient de Hohnsager L22, ce n'est pas directement la conductivité thermique. La conductivité thermique, c'est L22 moins L12 carré sur L1. C'est pour ça qu'ici, il y a kappa sur T 1 plus Z bar. Et le déterminant de cette matrice a le bon goût de valoir exactement kappa sigma. Puisque quand vous calculez le déterminant de cette matrice, la figure de Mérite s'élimine avec le moins alpha 2 sigma 2 qui est ici. Bon, alors vous voyez que je peux utiliser cette expression, cette équation, pour calculer le rapport JE sur JS dont j'ai besoin ici dans cette expression-là. Donc ça, c'est très facile. Vous obtenez que alpha JE sur JS est égal à l'expression suivante. Alors, une variable que je vais appeler x, x moins 1 sur x moins 1 plus z bar sur z bar, donc quelque chose de très très simple. Et la variable x, elle va jouer un rôle important dans la suite, c'est le rapport du champ électrique à alpha fois le gradient thermique. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette expression. Vous voyez que d'abord cette variable est sans dimension. C'est le rapport, c'est essentiellement le rapport des deux forces généralisées dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est également le rapport du champ électrique à la valeur du gradient thermique ou du champ électrique correspondant à la condition Seebeck. Si je suis dans les conditions Seebeck, c'est-à-dire que je suis en circuit ouvert et j'ai un gradient thermique, le champ électrique que je dois mettre pour le champ électrique qui apparaît aux bornes de l'échantillon et qui assure la compensation entre le transport de charge dû au gradient thermique et le transport de charge dû à l'existence d'un champ, et donc qui assure qu'il n'y a pas de courant qui circule dans l'échantillon, c'est précisément x égale 1 qui définit alpha. Alpha, c'est le rapport du champ électrique au gradient thermique tel qu'il n'y ait pas de courant qui circule dans l'échantillon. On avait vu ça au cours 1. Donc, je peux aussi voir cette variable x comme le rapport du champ électrique au champ Seebeck ou au champ d'arrêt, disons. Donc, dans la littérature, ça s'appelle quelquefois la stopping condition, qui est le champ correspondant à l'arrêt de tout transfert de charge dans mon système. Voilà, donc le jeu, ça va être de considérer cette variable ici comme le paramètre d'optimisation de cette efficacité. Alors, je peux maintenant utiliser cette expression pour réexprimer l'efficacité en termes de cette variable. Donc ça, c'est très facile. J'utilise ici, donc vous voyez que ici, j'ai maintenant JE sur JS et E sur gradient T, ben, c'est juste alpha X. Donc je peux remettre tout ça ensemble et tout simplement obtenir que eta r, eh bien, c'est xx moins 1 sur x moins 1 plus z bar sur z bar. Et vous voyez en fait ici pourquoi j'ai dit précédemment que la variable naturelle qui apparaissait dans tous ces problèmes de conversion d'énergie, ce n'est pas vraiment la figure de Mérite, c'est plutôt le rapport z bar sur 1 plus z bar, cette constante de couplage. Vous voyez que ce qui apparaît ici, c'est xx moins 1 sur x moins 1 sur g2. Où j'ai cette constante de couplage. Alors ça, c'est un type de relation extrêmement, extrêmement générale. On vient de l'établir ici pour des thermoélectriques, pour donc la conversion d'énergie par processus thermoélectrique, mais c'est quelque chose de complètement général. Si vous ouvrez un livre sur les processus thermodynamiques irréversibles, vous allez trouver ce genre de choses. Et ça s'applique aussi bien à des réactions chimiques hein, que, par exemple, à la conversion ADP-ATP dans la cellule. Ou bien on peut appliquer ces considérations, vous trouvez des petites modélisations de ça, au réchauffement climatique, par exemple. Il y a des livres qui détaillent un petit peu ça. Et on a toujours quelque chose de ce type, c'est-à-dire quelque chose qui relie l'efficacité de la conversion à la constante de couplage clé qui régit l'efficacité de la conversion, et puis un paramètre d'optimisation qui est le rapport des forces généralisées correspondantes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très général. Évidemment, s'il y a plus de processus couplés impliqués, là on a juste deux processus couplés, le transport de particules et le transport de chaleur, s'il y a plus de processus couplés, ben, on obtient des équations un peu plus complexes avec plus de variables d'optimisation et plus de constantes de couplage. Mais donc ça c'est le cas le plus simple où il y a juste deux processus couplés. Alors de la même manière que j'ai exprimé l'efficacité, on peut exprimer la puissance, hein, la puissance J scalaire E, hein, délivrée par mon dispositif. Donc c'est un petit calcul très simple qu'on peut faire aussi. Donc je vais exprimer ici, donc ça c'est une équation importante, je l'encadre. On peut de même exprimer la puissance, donc J scalaire E, donc là je la compte de manière qu'elle soit positive si le dispositif me fournit une puissance, effectivement. Les conventions en thermodynamique sont quelquefois opposées à ça. Bon, donc je l'ai défini comme ça, P égale moins J scalaire E. De cette manière, elle est positive si mon dispositif me fournit de la puissance. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, j'utilise la loi d'Ohm, J égale sigma E, donc j'ai un terme sigma E carré, hein, et puis j'ai un autre terme ici qui vient de l'autre entrée de la matrice, donc J c'est sigma E plus alpha, moins alpha sigma gradienté, donc ici j'ai plus alpha sigma E gradienté, et comme j'ai défini le rapport de E à gradienté comme étant alpha X, je peux réexprimer tout ça comme Z bar kappa sur T gradienté carré X1 moins X. Donc vous voyez que la puissance maximale, elle est toujours obtenue pour x égale 1,5. X1 moins x, son maximum à x égale 1,5. Pmax, qui est donc obtenu pour x égale 1,5, donc pour une force exactement égale à la moitié de la stopping force, eh bien ce Pmax est égal à alpha carré sigma sur 4, gradienté carré, et donc vous voyez ici apparaître, encore une fois, on l'a déjà vu dans les cours précédents, le fameux facteur de puissance qui power factor, hein, qui trouve toute sa justification ici, puisque c'est bien lui qui régit la puissance maximale fournie par mon dispositif. Alors, ici, j'ai exprimé l'efficacité en fonction de cette variable x. Et ici, j'ai exprimé la puissance en fonction de cette variable x. Alors, je pourrais vouloir éliminer cette variable x pour exprimer l'efficacité en termes de la puissance. Alors, bon, ça, c'est facile. Vous résolvez tout simplement cette équation du second degré pour exprimer x en fonction de p, et puis vous l'injectez ici pour obtenir le diagramme état-r en fonction de p. Les calculs sont simples, je vous passe les détails. Je vais introduire une variable sans dimension, de même que x varie entre 0 et 1 et est sans dimension. Je vais introduire une puissance normalisée P bar qui est sans dimension, qui est P sur P max, hein, qui va donc être entre 0 et 1. Et quand vous faites les calculs, ce que vous obtenez, c'est que x peut se remplacer en termes de P bar, c'est 1 demi de 1 plus ou moins racine de 1 moins P bar. Le signe plus dans cette expression correspond à x plus grand ou égal à 1,5, c'est-à-dire la partie où la force est plus grande que la moitié de la stopping force, et puis moins pour x plus petit ou égal à 1,5. Et puis en utilisant cette expression, vous obtenez de même que eta r, c'est égal à p bar sur 2 plus 4 sur z bar, plus ou moins 2 racine de 1 moins p bar. Cette fois, c'est le signe plus qui correspond à x plus petit ou égal à 1,5 et moins à x plus grand ou égal à 1,5. Alors là, on a donc obtenu ce qu'on souhaitait, c'est ça l'expression importante, c'est l'efficacité relative en fonction de la puissance normalisée à la puissance maximale. Et si vous tracez cette courbe, eh bien, vous obtenez la chose suivante. Donc, j'ai représenté ça quelque part ici. Voilà. Vous obtenez un faisceau de courbes qui correspond ici à différents choix de la figure de mérite sans dimension. Alors, il y a deux branches à chaque fois. Donc, prenons par exemple la courbe rouge ici. Il y a une branche supérieure qui correspond à un des deux signes, puis une branche inférieure qui correspond à l'autre signe. Hein. Donc, c'est x plus petit qu'un demi, e plus petit que la moitié de la stopping force, e plus grand que la moitié de la stopping force, qui correspondent à ces deux branches. Ces deux branches se réunissent à la condition ici de puissance maximum. Et observez ces courbes-là. Donc, vous voyez qu'il y a deux points remarquables. Il y a un point qui correspond à la puissance maximum. Ça, ça serait la généralisation des considérations de Chambadal-Novikov, hein, qui correspondent à la puissance maximum, qui vous donne une certaine efficacité, qui, vous voyez, n'est pas l'efficacité maximum possible. Et puis, vous avez le point d'efficacité maximum possible ici, hein, qui ne correspond pas à la puissance maximum et qui est, si vous voulez, évidemment différente de 1 parce que limitée par les processus dissipatifs dus au fait que Z bar n'est pas infini. Alors, ces différents faisceaux de courbes correspondent à différentes valeurs de Z bar que j'ai tracé ici pour des raisons complètement académiques et pour vous montrer la forme des courbes jusqu'à des valeurs de Z bar très grands. Les valeurs de Z bar qui sont représentées ici, c'est 1 pour la courbe noire, donc ça c'est, je dirais, ce qui est réaliste actuellement dans le cas de la thermoélectricité, 4 dans le cas de la courbe bleue, et puis ensuite on va à 10, 100 et même 1000, pour vous montrer qu'on met en fait très long, la courbe verte correspond à Z bar égale 1000, donc vous voyez, on met en fait très très longtemps à atteindre l'efficacité de Carnot, et vous voyez très bien comment cette efficacité maximale, au fur et à mesure que Z bar tend vers l'infini, ou la constante de couplage tend vers 1, c'est-à-dire que les processus dissipatifs disparaissent, vous voyez très bien comment cette efficacité maximale, eh bien, tend vers l'efficacité de Carnot, est à R égale 1, mais en même temps, la puissance correspondante tend vers 0. Vous voyez ça très clairement. Vous voyez aussi que, eh bien, quand Z bar commence à être relativement grand, donc pour des processus, ou quand G commence à être relativement proche de 1, donc pour des processus où le couplage permettant l'échange d'énergie est efficace, eh bien il commence à y avoir une différence significative entre le critère d'efficacité maximale et le critère de puissance maximale. Donc entre, je dirais, le critère qui généralise ici Chambadal-Novikov et puis le critère qui généralise, disons, le calcul de Carnot. Dire. En revanche, évidemment, dans l'état actuel des choses, dans le cas de la thermoélectricité, pour des Z-bar proches de 1, cette considération qui distingue l'efficacité à puissance maximale et l'efficacité maximale tout court, eh bien, elle est relativement académique, sans doute, puisque ces deux points sont très proches l'un de l'autre, hein, petit Z-bar. Voilà. Mais, encore une fois, ce genre de choses a une portée plus générale que les simples applications à la thermoélectricité. Et il y a d'autres processus de conversion d'énergie qui se font avec des efficacités plus grandes et où ce type de considération trouve tout leur intérêt. Alors, j'ai tracé d'autres choses, là, comme par exemple la relation qui existe entre l'efficacité relative, hein, et cette variable sans dimension qui est le rapport des forces généralisées, normalisées à la condition d'arrêt. Donc, vous voyez, c'est une relation comme ça, hein, avec une valeur particulière qui correspond à l'efficacité maximale. Et en fait, vous pouvez même trouver dans la littérature, j'ai mis une référence explicite dans les notes, eh bien, des applications de ce genre de choses, ou des vérifications expérimentales de ce genre de choses, de l'applicabilité expérimentale de ce genre de choses pour des processus biochimiques, par exemple. J'ai cité dans les notes un article d'un biochimiste suisse sur la conversion ATP-ADP qui montre que eh bien, la relation entre efficacité et rapport de force, qui est dans ce cas-là un rapport de concentration d'espèces chimiques, suit une loi de ce type. Voilà, alors ça c'est aussi des courbes qui vous montrent l'efficacité maximum. Hein, donc là j'ai reporté en fonction de la constante de couplage entre 0 et 1, G carré, je pourrais le faire aussi en fonction de la figure de Merritt. J'ai reporté ces deux points remarquables, donc l'efficacité maximum et l'efficacité à puissance maximum. Pardon. Donc ce que vous avez ici en rouge, c'est l'efficacité maximum. Ce que vous avez ici en bleu, c'est l'efficacité à puissance maximum. Vous voyez comment, quand on va à G2 très très proche de 1, hein, donc dans la limite d'un système réversible, eh bien, l'efficacité à puissance maximum tend vers 1, pardon, l'efficacité maximum tend vers 1, qui est l'efficacité de Carnot dans ses variables relatives. En revanche, l'efficacité à puissance maximum tend vers 1,5, qui est exactement la valeur de Chambadal-Novikov dans le cas d'un système endoréversible. Hein, on atteint la limite endoréversible dans ce dispositif, dans la limite où Z bar est infini, où G tend vers 1. Il n'y a plus de processus dissipatif interne. Voilà. Donc, ceci clôt, en gros, ce que je voulais raconter, voulais vous raconter sur la thermodynamique de la thermoélectricité. Et je pense que ça couvre, en fait, ça revêt un intérêt qui, à mon avis, qui est plus général que la thermoélectricité, qui est susceptible de s'appliquer à d'autres processus de conversion d'énergie. Je pense que dans le cycle de cours de l'année prochaine, on verra l'application de ça à des petits dispositifs mésoscopiques et même dispositifs liés à la physique des atomes froids, dont je parlerai un petit peu dans le cours de l'an prochain. Bon, alors il me reste une dizaine de minutes. Je vais peut-être commencer un petit peu les parties formelles du cours qui préparent le cours de la prochaine fois, à savoir l'expression des coefficients de Hansager grâce aux formules de Kubo qui vont nous permettre d'appliquer ça au calcul des coefficients de Hansager, donc du pouvoir thermoélectrique, en tenant compte des processus de scattering existant dans le système. Pour ça, il nous faut une manière de relier les coefficients de Hansager, la conductivité, le pouvoir thermoélectrique, la conductivité thermique, aux différents processus de diffusion qui existent dans le système. Donc, il nous faut une théorie du transport. Alors, il y a différentes manières de faire ça. J'en avais un petit peu parlé dans le cours de l'an dernier. On peut utiliser une approche à la Boltzmann. On peut utiliser une approche à la Kubo. Et j'ai mis dans ce transparent un certain nombre de références qui sont, à mon avis, bien utiles pour se familiariser avec ce formalisme de Kubo. Alors, en fait, c'est très bien fait dans le livre de Mehan, Many Particle Physics, au moins sur le plan du formalisme. Il y a évidemment l'article original de Kubo, que j'avoue n'avoir jamais vraiment regardé, mais enfin, je l'ai cité là pour l'exemple. Il y a un très bel article de Luttinger des années 60 qui utilise une approche légèrement différente, je vais vous expliquer en quel sens, pour ces formules de Kubo. Et puis j'ai indiqué ici deux autres articles un petit peu plus spécialisés, mais qui sont utiles dans le contexte de ce cours. Un article de Chastry et Peterson qui reprennent ce formalisme de Kubo pour le transport thermoélectrique et montrent comment on peut obtenir la formule approchée de Chastry-Kelvin en prenant la limite lente des équations de Kubo au lieu de prendre la limite dite rapide. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire après. Et puis ici, il y a un article d'Indra Nilpol et Gabi Kotliar qui est très utile pour expliquer toutes les simplifications qui se produisent dans ce formalisme de Kubo et en particulier dans l'expression des courants d'énergie dans le cas où on a une self-énergie purement locale, comme c'est le cas dans les théories de type DMFT. Alors, je vais juste vous introduire un petit peu les choses. Ce n'est pas du tout un cours sur la formule de Kubo et un cours sur le formalisme, la théorie du transport, parce que ça, il nous faudrait au moins 3-4 séances pour le faire un peu proprement. Ce n'est pas vraiment le but, puisque très vite, dans le cours de la fois prochaine, je veux aller vers des applications de ces considérations des applications plus concrètes et pratiques en vue des semi-conducteurs. Donc je vais juste vous esquisser un petit peu les choses en insistant sur les points importants. Donc quand on utilise un formalisme de Kubo pour calculer un coefficient de transport, comme par exemple une conductivité électrique, la procédure est toujours la même. On introduit un terme qui perturbe le Hamiltonien. Donc, on peut par exemple mettre un champ électrique dans le système pour calculer conductivité électrique. Ce champ électrique est faible. Donc, on va introduire un terme perturbatif et on va utiliser la réponse linéaire, c'est-à-dire qu'on va calculer la manière dont le système est modifié au premier ordre dans ce champ perturbant. Alors, dans le cas, par exemple, de la conductivité électrique, eh bien, on peut... Donc, toute la question est de savoir comment on va introduire ce champ électrique. Quel terme on va ajouter dans le Hamiltonien pour faire ça? Alors, il y a deux manières de faire ça, au moins deux. La manière, je dirais, la plus standard, qui est celle introduite par Mori et d'autres, et Kubo, qui consiste à générer ce champ électrique en introduisant un potentiel vecteur. Donc, E, c'est moins dA dt moins gradient phi. Hein. Donc, il y a en gros deux manières de faire. Soit vous mettez un potentiel scalaire, soit vous mettiez un potentiel vecteur dépendant du temps. En gros, voilà, il y a deux manières de faire. La manière, en fait, la plus directement utilisée en général, c'est d'introduire un potentiel vecteur dépendant du temps. Pourquoi? Parce que si vous introduisez un potentiel scalaire dépendant du temps, eh bien, il faut être certain que le système ne va pas simplement réagir en ajustant sa densité de charge au potentiel scalaire, sans faire passer de courant à travers le système. Donc c'est une manière simple pour le système de réagir, il va juste ajuster sa densité de charge localement, il n'y aura pas de courant qui passe, vous ne pourrez pas calculer la conductivité. Donc, si on introduit un potentiel scalaire, il faut l'introduire de manière, avec une modulation spatiale et également une dépendance temporelle, de manière que, on soit assuré d'obtenir effectivement un courant qui passe à travers le système. C'est ça l'importance de prendre la limite rapide, c'est-à-dire de prendre d'abord la limite où les modulations spatiales du potentiel tendent vers 0, donc la limite Q tend vers 0, puis la limite oméga tend vers 0, qui correspond, si vous voulez, à la limite où on introduit le système infiniment lentement, hein, de manière à pouvoir s'assurer qu'on va bien aller vers la solution où il y a un courant qui passe. Alors, la première approche, c'est l'approche plus traditionnelle de Kubo. La deuxième approche, c'est celle qui est introduite dans cet article de Luttinger, que je citais tout à l'heure. Et dans le cas des coefficients de réponse thermique, en fait, cette approche de Luttinger, elle est particulièrement utile. Donc, c'est pour ça que je la mentionne ici. L'article de Luttinger est en fait un des premiers articles qui montre comment utiliser cette approche à la Kubo, mais un peu alternative, en utilisant plutôt le potentiel scalaire, pour calculer les coefficients de réponse thermique. Alors, dans la première approche, on obtient une relation qui relie la conductivité, donc ici c'est la conductivité, qui est en général un tenseur qui dépend du vecteur d'onde de la perturbation et de la fréquence de la perturbation, donc c'est une conductivité généralisée, DC, mais également à longueur d'onde finie. On obtient cette conductivité comme étant directement relié à l'intégrale temporelle, ou la transformée de Fourier, de cette fonction de corrélation courant-courant retardée. Donc vous voyez, ça, c'est la valeur moyenne du commutateur des deux courants à des temps différents, donc c'est la fonction courant-courant retardée, et on obtient directement une relation entre la conductivité et la fonction de corrélation courant-courant. Donc ça, c'est une sorte de manifestation d'un principe assez général en physique qui est que la réponse est liée à la fluctuation à l'équilibre. C'est essentiellement ça. Donc vous voyez qu'on obtient cette relation entre sigma et la fonction de corrélation courant-courant. Vous pouvez utiliser une décomposition spectrale de cette fonction de corrélation courant-courant pour finalement établir l'expression de la conductivité à oméga égale 0 et Q tend vers 0. Donc, encore une fois, il faut faire d'abord Q tend vers 0 et ensuite oméga tend vers 0 pour que les choses se passent bien. Donc, c'est la limite rapide. On fait d'abord Q tend vers 0 à oméga fini et à la fin, on fait oméga tend vers 0. Et on s'aperçoit à ce moment-là que le terme ici, qui avait l'air dangereux en 1 sur oméga, eh bien disparaît. Il disparaît à cause du développement dans cette limite du facteur de Bose qui est devant. Et vous obtenez cette expression ici, hein, qui est parfaitement finie dans la limite oméga tend vers 0, tout au moins quand le courant ne commute pas avec l'hamiltonien, qui fait intervenir les éléments de matrice du courant entre deux différents états propres du système ayant la même énergie, puisqu'on est à oméga égale 0, seuls peuvent intervenir dans les transitions les états qui ont la même énergie. Voilà, donc ça c'est l'expression de la conductivité DC, de la conductivité à oméga égale 0. Si vous utilisez la seconde approche, qui est l'approche de Luttinger, vous branchez un potentiel scalaire, phi de R, et on peut prendre ce potentiel scalaire indépendant du temps, mais on le branche adiabatiquement, avec un exponentiel ST ici, avec S tout petit, donc on branche ce potentiel scalaire adiabatiquement. On va prendre d'abord la limite Q tend vers 0, et ensuite la limite S tend vers 0, et on obtient une expression qui est a priori différente de la précédente du tenseur de conductivité, qui cette fois, vous voyez, ça c'est le résultat final, cette expression fait intervenir en fait deux intégrales, une intégrale sur le temps imaginaire, donc le temps de Matsubara, et une intégrale sur le temps réel que vous avez introduit, qui correspond au branchement de la perturbation, toujours d'une fonction de corrélation courant-courant. Ce qui est bien, c'est que quand on utilise la représentation spectrale et qu'on prend la limite S tend vers 0 à la fin, eh bien on s'aperçoit que ces deux expressions sont en fait exactement identiques. On retrouve dans les deux cas cette expression-là. Donc on n'a pas obtenu deux expressions différentes de la conductivité, on en a obtenu une seule, mais qui se présente de manière légèrement différente. Là, il faut calculer un corrélateur retardé en temps réel, et là, il faut calculer aussi un corrélateur, mais qui est une fonction de corrélation légèrement différente, qui mélange temps réel et temps imaginaire, en réalité. Alors, quand on fait ça, comment est-ce qu'on démontre cette expression-là? Pour démontrer cette expression-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la réponse linéaire dans la perturbation F qu'on a introduite dans le hamiltonien. Et vous observerez ici que si je regarde, donc la réponse linéaire, l'équation de base de la réponse linéaire, elle est donnée ici. La valeur moyenne du courant que vous générez, elle est égale à ce corrélateur qui fait intervenir le courant à l'équilibre, en l'absence de la perturbation, fois la dérivée temporelle de la perturbation F, qui était ceci. Alors regardez cette perturbation F. Cette perturbation F, c'est le produit de mon potentiel scalaire, que je peux avoir mis de manière statique, et de ρ qui va réagir au branchement adiabatique du potentiel scalaire, donc qui, a priori, va dépendre du temps. Donc si vous calculez df dt, vous voyez que c'est l'intégrale de phi d'ρ dt. Je peux utiliser l'équation de continuité d'ρ dt plus divergence de j égale 0 pour obtenir ça comme ça. Utilisez une intégration par partie, vous voyez qu'à la fin des fins, ce que vous trouvez, c'est que ce df dt, qui intervient ici dans la réponse linéaire, c'est précisément, essentiellement, la puissance qu'on a vue tout à l'heure, E scalaire J. Alors ça vous suggère directement comment généraliser cette expression à un cas complètement général, où vous avez des forces généralisées X et puis des courants J conjugués. Il suffit de brancher un F tel que df dt soit égal à somme de Gx. Et ça vous permet directement d'obtenir une expression formelle générale pour n'importe quel nombre de processus couplés qui vous donne les coefficients de Hunsager, toujours dans ce formalisme à la Luttinger, là, dans ce second formalisme, qui vous donne les coefficients de Hunsager comme une fonction de corrélation courant-courant avec cette matrice de coefficients de Hunsager définie comme les coefficients, la matrice de coefficients qui relie les courants aux forces généralisées conjuguées. Donc si vous ouvrez un livre sur les processus de transport hors d'équilibre, les processus de thermodynamique hors d'équilibre, vous trouverez ces formules de Kubo généralisées, et vous voyez que l'idée générale de ces formules de Kubo généralisées, c'est d'utiliser la réponse linéaire en branchant une petite perturbation telle que la dérivée de cette perturbation par rapport au temps soit égale au taux de production d'entropie irréversible. Et c'est comme ça qu'on établit ces équations-là pour les coefficients de Hunsager. Alors, sous cette forme, une fois que vous utilisez la représentation spectrale de tout à l'heure, eh bien, sous cette forme, la symétrie des coefficients de Hunsager, LAB égale LBA, elle devient complètement évidente. Vous voyez que LAB, c'est ça. LBA, ça correspond simplement à intervertir ici B et A. Hein. Donc, je peux changer les sommations entre N et M dans cette somme. Ici, j'aurai exponentielle moins bêta EN, EM. Mais comme ces états sont contraints, parce qu'on regarde le coefficient de Hunsager statique, à avoir la même énergie, eh bien, exponentielle moins bêta EN et exponentielle moins bêta EM sont égaux. Et donc, directement, vous trouverez que dans la limite oméga tend vers 0, les deux coefficients de Hunsager, LAB et LBA, sont égaux. Voilà. Donc, on a survolé les formules de Kubo très vite, mais le point crucial sur lequel je voulais vous attirer votre attention, c'est que, d'une manière générale, le coefficient de Hunsager, LAB, est donné par un corrélateur courant-courant des deux quantités A et B correspondantes. Donc ici, A peut être le nombre de particules B, l'entropie, par exemple. Et ceci se montre en utilisant le fait que la perturbation que vous devez introduire dans votre Hamiltonien est telle que la dérivée temporelle de cette perturbation, eh bien, c'est le taux de chaleur irréversible produit dans le système.